Vous écoutez Radio Campus 106,6, comme tous les mercredis, à partir de 17h30, vous retrouvez le magazine Lille 1 Info. Une demi-heure hebdomadaire consacrée à l'actualité, ou non d'ailleurs, des informations sur l'université de Lille 1. Et aujourd'hui, nous allons parler d'aménagement du campus, notamment avec M. François Buil-Baudin, qui est vice-président chargé de l'immobilier et de l'aménagement du campus de Lille 1. Bonjour M. Buil-Baudin.
Bonjour.
Voilà, donc l'université, c'est un grand domaine, on va dire. Ce grand domaine a besoin d'équipements, de structures, d'infrastructures et aussi de réglementations parfois.
Oui, on peut dire que c'est quasiment une ville. Enfin, en tout cas, c'est un gros quartier, puisqu'il faut rappeler quelques chiffres. Près de au moins 15 000 étudiants, peut-être pas tous simultanément sur le campus, mais à peu près autant d'auditeurs de formation continue de façon plus irrégulière. 4 000 personnes qui y travaillent, enseignants-chercheurs, personnel administratif, ingénieurs. Et un point important, une activité résidentielle, puisque nous avons près de 4000 étudiants qui vivent en permanence sur ce campus. Donc on peut parler de ville plus que de cité, on peut parler de quartier, disons.
Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a un beau métro qui traverse et qui s'arrête, donc ça c'est quand même un aspect pratique des choses.
Alors, effectivement, pour les anciens qui se souviendront des premières années de la cité scientifique perdue au milieu des champs, desservie de façon un peu erratique par de vieux autobus, l'arrivée du métro en 1982 était à l'époque d'un modernisme presque décoiffant, on peut le dire, puisque ce métro a été longtemps un mode de transport futuriste. Métro automatique, fréquence très élevée. Et paradoxalement, effectivement, après quelques années où le métro était le moyen d'accès le plus commode pour le campus, eh bien, la voiture a repris ses droits, malheureusement, comme beaucoup, dans beaucoup de villes du monde, parce que le métro, il dessert Lille en passant par Villeneuve-d'Ascq et que beaucoup de gens, finalement, ne sont pas branchés d'une façon directe sur ce métro. Et aujourd'hui, on constate que même si encore la majorité des étudiants viennent en métro, la majorité des personnels, par contre, ne viennent pas en métro, mais en automobile.
Est-ce qu'il n'est pas un peu cher, le métro ?
Alors, on peut dire oui, parce que ça, c'est la tarification Transpol qui consiste à considérer que l'on parcourt, cette tarification unique fait que quand on parcourt beaucoup de kilomètres ou quand on en parcourt peu, on paye le même prix. Et d'autre part, c'est vrai que les conditions offertes, en particulier aux étudiants en termes d'abonnement, ne sont pas si appréciable que ça, si on se réfère à d'autres villes. J'étais dernièrement à Paris, j'y ai vécu. Je trouve que, par exemple, le transport en commun parisien est quand même moins onéreux que le transport en commun lillois.
C'est vrai qu'il y a des billets, trois stations, je crois.
Oui, le billet ZAP, bon. Oui. Mais enfin, le billet ZAP, quand vous êtes ici, ça vous permet d'aller à Pont-de-Bois. L'ancien maire de Villeneuve-d'Ascq disait qu'il était à l'origine de cette initiative pour faciliter l'échange entre l'île 1 et l'île 3, mais d'un autre côté, c'est pratique aussi pour les Lillois. Trois interstations, c'est peut-être pas assez. On pourrait se dire que un petit peu plus. Le prix du ticket ZAP pour aller de Villeneuve-d'Ascq à Lille, ça serait peut-être pas si bête que ça.
Mm-hmm. Si on prend, je ne sais pas, on n'est pas forcément au courant de tout, mais l'économie de la société qui gère le métro, c'est plutôt positif ou plutôt négatif en termes de rentabilité ?
Je dirais que j'en sais pas grand-chose parce que nous ne dialoguons pas beaucoup avec eux. Depuis quelque temps, j'aimerais bien lancer un certain nombre d'initiatives, comme par exemple faire en sorte que certaines lignes d'autobus soient prolongées jusqu'à la cité scientifique, plutôt que de s'arrêter soit à Pont-de-Bois, soit à Villeneuve-d'Ascq. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, le métro est un axe fort, lourd de transport en commun, mais il a atteint ses limites pour la desserte du campus, alors que par contre, une desserte un peu plus diversifiée permettrait peut-être de diminuer la pression de l'automobile sur le campus.
Alors, il faut aussi signaler aux abords du campus, même dans le campus, de grands parkings, celui de l'entrée du campus, on va dire, il est assez immense et beaucoup de gens qui vont à Lille s'arrêtent là, stationnent là pour la journée.
Alors c'est effectivement un petit peu l'ambiguïté de... On partage la cité scientifique, partage avec... a un handicap d'une certaine façon, on peut dire que c'est un handicap, c'est qu'elle est quatre cantons et le terminus de la ligne numéro 1. Et que donc quatre cantons est le lieu vers lequel tout un versant sud-est de la métropole converge pour pouvoir prendre le métro et se rendre sur l'île. Donc ça sous-entend un terminus de bus suburbain et également un parking, le parking quatre cantons, qui est un... on peut le dire d'une certaine façon une verrue, puisque un parking n'est jamais une chose très agréable. Et on a tout autour du campus... Des parkings historiques qui datent de l'époque de la cité scientifique. Et puis on a, à l'intérieur même de l'anneau Langevin, qui constitue le cœur du campus, tout un mitage de l'espace par des parkings plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Tout ça n'améliore pas la qualité générale du campus.
Alors, à une époque où la situation économique est difficile, on imaginait peut-être que le transport en commun restait une solution d'avenir, moins frayeuse peut-être, et peut-être plus pratique en définitive pour les gens.
Mais oui, je pense qu'effectivement, je pense que personnellement, voulant un campus durable, une des premières actions, c'est celle qui consiste à développer les modes de transport doux, c'est-à-dire piétons, cyclistes, et puis également l'usage du transport en commun. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce transport en commun est simplement limité au métro, aux heures de pointe, c'est-à-dire à l'arrivée des étudiants le matin et au départ des étudiants le soir, le métro est saturé. On a remis au calende grec le doublement des rames de la ligne numéro 1 du métro. Quand je dis calende grec, c'est 2014. Et donc, on a donc... une desserte de transport en commun de qualité, mais sur un axe unique et qui aujourd'hui est proche de la saturation. Le problème qu'on rencontre sur notre campus, on peut le généraliser à beaucoup de villes de France. C'est-à-dire que le citoyen a tendance naturellement à se retourner vers les transports en commun quand on voit le prix de l'essence. D'un autre côté, on constate qu'on n'a pas assez investi ces dernières années dans les infrastructures de transport en commun et qu'on est proche de la saturation, voire... C'est le cas en région parisienne ou dans certaines autres villes de province. On a déjà atteint la saturation sur certaines lignes importantes de transport en commun.
Alors, ces investissements sur les infrastructures, elles sont liées aux volontés des entreprises qui gèrent les transports ou, par exemple, à Lille LMCU, Lille Métropole Communauté Urbaine.
Les entreprises ne sont que des gestionnaires. En fait, il faut voir que le propriétaire du métro, c'est LMCU, c'est Lille Métropole. Le gestionnaire n'arrive qu'en second rang pour assurer la bonne exploitation du réseau. Donc, en fait, quand je parle de manque d'investissement, il s'agit d'un manque d'investissement public. Ce manque d'investissement public... Il faut savoir aussi que transport en commun, on ne gagne pas d'argent... en exploitant des réseaux de transport en commun. On en perd. Et donc, cela veut dire que, en fait, il y a déficience des pouvoirs publics. Alors, les collectivités territoriales, effectivement, on pourrait dire qu'elles n'ont pas assez investi. Seulement, les collectivités territoriales se retournent naturellement vers l'État en disant, ben, nous, on est prêts à investir, mais que l'État nous aide. Et ce dialogue de sourds, ben, malheureusement, on le connaît depuis quelques années.
Alors, des investissements volontaristes, on en connaît. Il va y avoir ce grand chantier par rapport au stade.
Alors, le grand stade, oui, le grand stade, c'est un chantier volontariste. C'est une volonté de Lille Métropole de se doter d'un grand stade. Je préfère employer plutôt d'un grand équipement, parce que c'est à la fois un stade, mais c'est aussi une salle de spectacle, de tout genre. Et la preuve que les métropoles n'ont pas la capacité que les grandes collectivités territoriales n'ont pas la capacité de financer cela, c'est qu'elles sont passées par une procédure de partenariat public-privé pour se payer ce grand équipement. Alors évidemment, là aussi, cette logique du partenariat public-privé, je dirais, sans vouloir polémiquer, c'est un petit peu le reflet des problèmes que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde manque de liquidité. Le particulier manque de liquidité, les collectivités manquent de liquidité, l'État manque de liquidité.
Donc effectivement, on a un peu l'impression actuellement que les difficultés économiques risquent de compromettre parfois des projets. Est-ce qu'on sent un risque ?
Je pense que oui. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas tellement ma casquette de vice-président, mais c'est aussi ma casquette de professeur de construction et d'aménagement durable, qui consiste à dire qu'on va certainement vers un risque. Parce que on constate aujourd'hui les difficultés économiques. Un des postes générateurs de difficultés économiques, c'est quand même l'automobile. Et donc, il faut offrir des alternatives à l'automobile pour que les gens puissent continuer à vivre normalement. Et on voit que toutes ces politiques d'urbanisme qui consistent à envoyer les gens des classes moyennes ou à faible revenu vers l'extérieur des villes, donc à être complètement dépendant de modes de transport, hélas, trop souvent individuels, c'est un véritable problème. Mais seulement, je ne sais plus dans quelle étude, j'avais vu que pour rattraper le retard qui est en train de se dessiner en termes d'investissement de transport, c'est en centaines de milliards d'euros que l'Europe, par exemple, devrait investir à tous les niveaux, trains à grande vitesse, trains régionaux, transports en commun dans les grandes villes. Donc on est en train de prendre un retard d'investissement dans ce domaine-là.
Non. Autrefois, si ma mémoire est bonne, le campus était un lieu un peu protégé, un peu fermé au public, avec ses propres règles et avec, j'allais dire, pas sa police privée, mais une façon assez fermée de gérer ses règles et sa sécurité. Là, maintenant, c'est un campus ouvert, il y a des métros, des parkings qui sont à la limite extérieure à la fonction universitaire, au projet universitaire. Il va y avoir ce grand stade qui va s'installer avec ses équipements ouverts au public, a aussi une activité économique par rapport à ça. Tout cet ensemble qui donc favorise l'ouverture, est-ce que en contrepartie n'amène pas des problèmes de sécurité, par exemple ?
Je crois que c'est un problème un peu général. Quand on veut s'ouvrir, il faut souvent en payer le prix. L'ouverture est à la fois synonyme de progrès, et en même temps, il faut le faire avec un certain nombre de précautions. Le Grand Stade en est un bon exemple. Le Grand Stade a effectivement déclenché dans le milieu universitaire un certain nombre de réactions, certaines très hostiles, d'autres un peu moins. Il a fallu des discussions serrées, sérieuses, avec la communauté urbaine pour qu'au bout d'un an, nous arrivions à un modus vivendi. On ne peut pas dire qu'on est encore avec LMCU d'accord sur tous les points. Mais on a quand même progressé. On a encore des sujets d'inquiétude. Ces sujets d'inquiétude sont en termes de sécurité. Ben, il faut comprendre que le campus est un lieu un peu particulier. On est dans un domaine public de l'État, mais ce domaine public est réservé aux usagers. C'est toute une ambiguïté. On est dans un domaine public, mais en même temps, ce domaine public n'est pas public, d'une certaine façon. Et alors, la difficulté qui va derrière, c'est que quelque part, quand il se passe quelque chose à l'intérieur du campus, donc à l'intérieur de ce domaine public réservé, le responsable, eh bien, c'est le président de l'université, et ça n'est pas le maire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a des responsabilités engagées, des responsabilités civiles, qui font qu'ensuite nous devons faire la preuve de notre bonne foi. C'est-à-dire que si des incidents arrivent causés par des gens qui ne sont pas des usagers de l'université, à ce moment-là, c'est à nous de prouver qu'ils n'étaient pas usagers de l'université et que donc ils n'avaient rien à faire là et que donc ils sont pleinement responsables des désordres. On voit facilement que, imaginez 10 000 personnes qui, demain, soit stationnées à quatre cantons, soit descendant du métro quatre cantons, remontent le boulevard Paul Langevin, prennent la passerelle au-dessus du boulevard du Breuc et se rendent au grand stade. Si tout cela se passe dans le calme, parfait. S'il y a des débordements, qui est responsable? Donc voilà le genre de difficulté qui se pose clairement à nous et pour lequel nous travaillons actuellement avec LMCU, avec la préfecture, pour que tout cela soit clairement rédigé, défini dans une convention qui permettra de définir les responsabilités de chacun. Nous sommes donc dans un territoire qui a un caractère juridique un peu particulier. Ça en fait sa richesse aussi, je dirais, d'une certaine façon. Donc nous devons être vigilants. Nous avons bon espoir d'arriver à un accord, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas nous opposer à un projet d'une telle ampleur. Nous voulons simplement que, à l'inverse, LMCU reconnaisse l'ampleur de notre projet universitaire et que tout ça se passe le mieux du monde.
Est-ce que vous avez des exemples d'autres universités qui se sont ouvertes à des équipements privés en France notamment?
C'est très variable. L'ouverture... je connais des campus français qui se sont refermés derrière des grillages. C'est un peu amusant parce qu'en fait, les portes sont toujours ouvertes, mais il y a des grilles. C'est une façon de délimiter un territoire, je dirais, et c'est pas obligatoirement sympathique. Et puis, vous avez d'autres campus qui, au fur et à mesure du temps, se sont ouverts à des activités privées. Et à la fin, on n'arrive plus à distinguer exactement ce qui relève du domaine strictement universitaire de ce qui relève du domaine public, ouvert à tout le monde, avec des activités, en particulier commerciales. Vous savez, un débat permanent au sein de l'université, ce sont nos fameux débits de boissons, pour parler simplement. Nous sommes dans un milieu universitaire, donc toute activité commerciale doit être autorisée par le président. Donc ça relève bien d'un... Vous voyez, on est bien dans l'esprit des années 60. Aujourd'hui, si on veut qu'un campus vive, il faut donc l'ouvrir à un certain nombre d'activités, dont des activités commerciales. Et à ce moment-là, plus on ouvre, plus ça devient difficile de contrôler, et plus ça perd son sens. Ce genre de contrôle perd son sens. Donc voilà, on est dans une période qui change. Je pense que la nouvelle loi sur la responsabilité des universités, très certainement le retour que nous allons avoir, nous, du patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine va devenir le nôtre, et non plus celui de l'État qui nous le délègue, va certainement changer beaucoup de choses. Mais c'est un plongeon dans l'inconnu. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans 2 ans, dans 3 ans.
Alors, François Bilbaudin, parmi les usagers de l'université, est-ce que des gens sont bien au courant des projets qui vont se mettre en place? Et peut-être qu'on peut leur donner quelques informations sur ce qui les attend dans les prochaines années.
Alors déjà, on peut dire que nous avons mis sur le site intranet de l'université, donc malheureusement accessible pour le moment qu'au personnel, mais je suis en train de voir si ça ne serait pas possible de le rendre accessible à tout le monde, y compris aux étudiants. Nous avons une présentation relativement exhaustive du projet du Grand Stade. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu une conférence au mois de juillet avec LMCU et puis le concessionnaire du Grand Stade, c'est-à-dire EFAGE, sur qu'est-ce que le projet de Grand Stade et comment l'accessibilité au Grand Stade va se faire, en particulier à travers la cité scientifique. Donc nous avons mis ces documents et nous essayons de les mettre encore, d'élargir l'accès à ces documents. qui sont des documents qui fondent, je dirais, un petit peu le projet de LMCU de Grand Stade. Donc voilà un exemple. Nous avons également commencé à titiller un petit peu l'intellect des usagers du campus en peignant quelques flèches de couleurs les voiries et puis en mettant quelques petits bonshommes piétons peints sur les trottoirs. Alors, le but, beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je rassure tout le monde, la signification n'est pas des plus évidentes et nous n'insisterons pas sur la signification. Le but, je dirais, c'est presque un gag, mais le but, c'était de faire un peu réagir les gens par rapport au fait que nous avons un gros déficit de signalisation sur le campus. L'objectif, il est clair, nous allons, à partir de début 2009, mettre en place un certain nombre de sens uniques pour les automobiles, sachant que le contresens sera permis pour les vélos ainsi que pour les véhicules de secours. Et à partir de la fin de ce mois d'octobre, nous allons commencer une campagne de communication pour expliquer où seront les sens uniques et également nous lancerons une campagne de communication et de réflexion sur la signalétique à l'intérieur du campus. Nous avons de gros problèmes. Tous les gens qui viennent nous voir se perdent, qu'ils soient piétons ou qu'ils soient automobilistes. Les services de secours, et ça c'est beaucoup plus grave, se perdent régulièrement quand il s'agit d'intervenir sur un accident ou un incident. Il faut donc trouver des solutions dans des délais relativement brefs. Et pour cela, eh bien, nous lançons une opération de communication. On a commencé par un gag. Elle sera un peu plus construite dans les quelques semaines qui viennent.
Donc, ce plan de circulation, de stationnement, il est concerté?
Alors, il est concerté avec une instance qui a fonctionné jusqu'aux élections et au renouvellement des conseils, qui s'appelle la CIAC, la Commission Interconseil d'Aménagement du Campus. Il est également concerté avec les autres établissements que l'on trouve sur le campus, par l'intermédiaire de notre structure qui s'appelle le DUSVA, Domaine Universitaire Scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, cela a été déjà discuté, et ce plan de circulation a été approuvé par ces instances. Maintenant, je suis quelqu'un dont la démarche, je dirais, est très inspirée du développement durable, c'est-à-dire que je ne cherche pas aujourd'hui à figer ce plan de circulation par des investissements relativement lourds. Donc nous nous lançons aujourd'hui dans une phase que je vais qualifier d'expérimentale. C'est-à-dire que nous allons mettre en place ce plan de circulation et nous allons ensuite voir comment cela se passe. Je ne vais pas dire nous allons compter les points, mais nous allons essayer quand même d'avoir du retour, de l'analyse, pour voir si des aménagements, soit partiels, soit peut-être un peu plus lourds, ne seraient pas à faire dans les mois qui suivent. Donc on rentre dans une démarche que je qualifierais d'expérimentale, ce qui est un petit peu logique quand on est dans un milieu universitaire.
Est-ce que les étudiants s'intéressent à ces problèmes d'aménagement du campus? Comment vous le ressentez?
Alors, je dirais, les étudiants militants s'y intéressent. On a souvent des remarques, des réflexions qui viennent de la part d'étudiants à propos, effectivement, de notre relative déficit en garage à vélo, en piste cyclable, en abri, enfin, en cheminement piéton à l'abri des intempéries. On a aussi des remarques assez récurrentes des étudiants et des personnels sur le manque d'éclairage public. Donc on a des retours et on a également, je dirais, un certain nombre de personnes qui nous poussent pour mieux identifier les parcours, en particulier en termes de circulation douce. Et pour revenir à l'opération campus, hein, dont on n'a pas encore aujourd'hui la réponse définitive, hein, apparemment, on n'a pas vraiment gagné, on n'a pas non plus vraiment perdu. Eh bien, nous avons le souci de flécher. Si nous réussissons à avoir la possibilité d'investir, nous avons déjà avancer une réflexion relativement approfondie sur la refonte de nos réseaux, de notre éclairage public, qui est fortement déficient, et de notre signalétique.
Alors, monsieur François Bilbaudin, vous vous occupez également de l'immobilier. Est-ce que la situation est bien figée maintenant, stabilisée? On peut dire que le campus a trouvé sa forme définitive ou il y a encore des projets?
Écoutez, je crois que le foncier est bien rempli maintenant. Et nous avons encore quelques zones qui ne sont pas construites, mais je crois qu'il serait une erreur aujourd'hui de construire sur ces zones-là. Nous devons garder des îlots relativement préservés. Et d'ailleurs, c'est une demande très forte de la part de mes collègues biologistes et puis d'un certain nombre d'associations étudiantes. Et c'est tout à fait normal. Donc je pense que nous commençons à arriver maintenant dans la période où nous allons être amenés peut-être à démolir des bâtiments construits pas nécessairement il y a 40 ans, mais peut-être il y a 25, 30 ans, de manière à reconstruire, peut-être de façon un peu plus dense, mais en ayant une occupation du territoire un peu moins mitée, un peu moins... Vous voyez, si vous regardez une photo d'avion du prix d'avion du campus, vous êtes assez frappé par le fait que maintenant vous avez des bâtiments partout. Mais quand vous vous promenez sur le campus, vous avez des bâtiments de relative faible hauteur. Et ceci n'est peut-être pas aujourd'hui l'optimum quand on raisonne construction durable. On préfère moins occuper le foncier, mais construire plus en hauteur.
Est-ce que les problèmes d'économie d'énergie sont également pensés à ce niveau?
Alors les problèmes d'économie d'énergie sont pensés. Nous avons des constructions qui sont relativement tolérantes, je dirais, à une remise à niveau correcte, mais on ne peut pas atteindre la très haute performance énergétique avec les bâtiments que nous avons aujourd'hui. Donc je crois que il va falloir aujourd'hui commencer à faire des choix. Quels bâtiments envisageons-nous de conserver dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent? Et pour cela, on va essayer de faire le maximum pour améliorer les performances énergétiques, sachant que de toute façon, ça ne sera pas le Pérou. Hein. Et puis, d'un autre côté, nous allons commencer à sélectionner des bâtiments sur lesquels, clairement, nous allons dire, sur cela, nous ne faisons plus rien, et à terme, ils vont être démolis.
Très bien, monsieur François Bilbaudin, merci d'être venu nous expliquer tous ces problèmes qui sont pour chacun des usagers des choses assez importantes au quotidien. Ensuite, ça, leur vie, leur qualité de vie et puis leur qualité de travailler, d'être sur l'université dépend évidemment beaucoup de ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.